à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 10. Nous lisons au premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte, dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Nous allons au verset 19. Pierre a une vision, il est là, il se questionne, et nous lisons, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre, donc, descendit, et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Le verset 34 nous dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne ». Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. On va prier le Seigneur encore un instant. Notre Dieu, nous sommes devant toi, devant ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous parler, avoir notre cœur ouvert, afin que nous puissions accepter ce que tu vas dire, que nous puissions avoir une direction. Peut-être ce soir, mon Dieu, il y a quelqu'un qui attend une parole de réconfort, une parole particulière, mon Dieu, veuille lui communiquer au travers de ce message. Seigneur, nous avons faim et soif de t'entendre, nous avons confiance en toi. Et nous voulons vraiment nous laisser façonner par toi, parce que tu es notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Corneille. Je disais cet après-midi que la première fois que j'ai lu ce texte, je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas compris pourquoi Corneille avait besoin d'aller voir Pierre. dans ma tête, et lorsque l'on lit le descriptif de cet homme, on se dit, mais cet homme, il est extraordinaire. Il n'a pas besoin d'être enseigné, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne quelque chose sur la foi, sur Jésus-Christ. On voit, et on pourrait dire, il a un CV impressionnant au niveau spirituel. Il nous est dit que cet homme était pieux, qu'il craignait Dieu, qu'il faisait beaucoup d'aumônes, ça veut dire qu'il était utile, qu'il allait dans telle association pour aider, peut-être qu'il donnait de son argent, qu'il donnait de son temps, parce qu'il avait à cœur d'aider son prochain, peut-être, je pense que oui. Il avait le souci de celui qui manquait, peut-être de quelque chose. Il nous est dit qu'il priait Dieu continuellement. Et lorsqu'on lit ça, on se dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Peut-être que c'est nous qui avons besoin d'aller voir Corneille pour être enseignés, pour qu'il nous dise comment faire pour prier continuellement. Mais en lisant la parole et en voyant comment ça s'est passé pour lui, nous voyons bien que lui aussi avait besoin de découvrir certaines choses. Quand bien même sa vie paraissait correcte, on dirait aujourd'hui que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un avec qui on aime rester. On dirait que si on l'avait comme voisin, que c'est vraiment un bon voisin sur qui on peut s'appuyer lorsque peut-être on part en vacances. On pourrait faire toutes sortes d'éloges sur lui. Mais lorsque nous considérons, et je le répète volontairement, la parole de Dieu, nous voyons que ce n'est pas parce que, au niveau de notre morale, au niveau de nos actions, que nous, lorsque nous sommes irréprochables au niveau de ces choses, ce n'est pas pour cela que Dieu nous regarde comme étant justifié. Il y a, c'est différent. C'est deux chemins qui n'ont rien à voir. Et l'histoire de Corneille est là pour nous rappeler que Dieu a un plan et que Dieu ne laisse pas de côté celui qui cherche la vérité. Dieu ne met pas de côté celui qui frappe à la porte pour trouver celui qui cherche. Dieu ne le met pas de côté, mais il va mettre tout en œuvre pour le conduire à découvrir la vérité, le chemin et la vie en Jésus-Christ, pour nous qui sommes accoutumés à lire la parole de Dieu. Bien sûr, au travers de ce que l'on partage ce soir, nous vous encourageons, et dans ce texte nous allons bien le voir, que la seule personne vers qui nous devons aller pour être justifiés, c'est Jésus-Christ. Il y a un verset qui pourrait introduire vraiment la vie de Corneille, qui se situe, je le lis pour vous, dans le 1 Timothée, première épître de Timothée, au chapitre 2, et le verset 4, première épître à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Dieu veut, et au travers de ce texte, nous voyons que c'est vraiment l'accomplissement de sa parole. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça ne veut pas dire que nous soyons obligés de choisir la vérité. Ça ne veut pas dire non plus qu'on soit là comme bloqué, comme sous un poids particulier, jusqu'à ce qu'on n'ait pas cédé, Dieu est là. Non, ça veut dire que Dieu veut que l'on puisse apprendre de lui. Apprendre pour choisir, pour prendre le bon chemin. Que lorsque nous cherchons la vérité, Dieu va nous éclairer. Dans la vie de Corneille, ça a été un ange qui est venu. Dans ma vie, ça a été un ami, un frère de l'Église. Dans d'autres vies, c'est peut-être vous ce soir qui êtes là, qui êtes converti. C'est peut-être un membre de votre famille, quelqu'un de l'Église qui priait pour vous, qui venait vous voir lorsque vous venez en disant « Mais voilà, choisis, prends la bonne direction. » Toujours est-il, c'est que lorsque on a ce cœur qui est attentif à la vérité, qui veut rechercher véritablement le sens dans notre vie. Et le sens ne se trouve pas dans les aumônes, dans les bonnes actions que nous pouvons faire. Le sens se trouve en Jésus-Christ. Dieu mettra tout en œuvre pour que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. jusqu'à ce que Corneille arrive chez Pierre, il y a quand même un cheminement, on le voit, il va envoyer ses serviteurs, Pierre va avoir une vision parce que avec les juifs, avec les païens, c'était compliqué, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, qui rentraient en jeu. Et Dieu va vraiment préparer le cœur de Pierre. Dieu va vraiment labourer le cœur de Pierre, on pourrait le dire comme ça, pour que ce qu'on peut penser puisse s'écrouler pour laisser la place à l'action de l'Esprit. Et même si je m'écarte un peu de mon chemin, vous savez, quelquefois, nous qui sommes croyants, nous avons besoin de laisser le Seigneur peut-être labourer notre cœur. On a des principes. Et Pierre avait des principes. Et ce n'est pas que c'était absolument Pierre qu'il fallait qu'il aille parler à Corneille. Il y avait d'autres apôtres ce jour-là. Il y avait d'autres pasteurs. Il y a d'autres pasteurs à Toulouse. Il y a d'autres églises en France, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs. Mais vous savez, si Dieu a mis Pierre sur ce chemin, si Corneille devait aller voir Pierre, dans cette histoire, il faut bien se rendre compte que Corneille avait besoin du salut, Corneille avait besoin d'être éclairé, mais Pierre aussi avait besoin de changer. Pierre aussi avait besoin d'être modelé par le Seigneur pour pouvoir faire son œuvre. Et quelquefois, on est là, on reste sur nos principes et on peut bloquer l'œuvre de Dieu, ce que, plutôt je devrais dire, ce que le Seigneur veut faire au travers de nous. Alors bien sûr, il y aura peut-être, il y aurait eu Jacques, il y aurait eu Jean qui était peut-être disponible. Il aurait pu se servir de Jean, ça aurait été une bénédiction pour Jean. Mais Dieu avait vraiment un plan pour Pierre aussi. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous devons lui laisser toute la place pour qu'il puisse façonner notre vie, pour que nous puissions lui être utiles. Corneille va faire vraiment cette déclaration lorsqu'il va rencontrer Pierre. Pierre va se déplacer, on l'a lu. Corneille est là et on voit vraiment son désir, cette soif de vérité, son désir de vraiment de connaître Dieu. Son désir non pas basé sur ce qu'il pouvait penser, mais son désir d'être façonné, d'être trouvé par Dieu. Et c'est le verset 33 qui nous le dit, et nous ne l'avons pas lu. Nous pouvons le lire maintenant. Lorsqu'il y a un échange, ils s'expliquent mutuellement le contexte. Et le verset 33 nous dit « Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir ». Et Corneille va dire, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pour entendre tout, toute la parole de Dieu. C'est extraordinaire cette parole. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si ça se produisait, et ça se produit, les personnes pourraient dire, bon, on ne veut pas trop entendre parler de péché. On ne veut pas trop entendre parler de la croix. On veut bien entendre la bénédiction. On veut bien entendre la guérison. On veut bien entendre la prospérité. Mais ce n'est pas ça que Corneille a dit. Et ce n'est pas ça qui doit être attaché dans notre cœur. Et il y a vraiment cette ouverture de cœur, d'esprit dans la vie de Corneille. Et on comprend effectivement pourquoi il a été béni. On comprend pourquoi il y a eu cette œuvre de salut parmi les membres de sa famille, parmi ses intimes. Parce qu'il avait un cœur prêt à recevoir la vérité. Il avait ce cœur prêt à recevoir ce que Dieu voulait. Oui, Pierre, on t'a fait venir parce que on veut entendre tout ce que Dieu a à nous dire. Pas la moitié, pas un tiers. Peut-être qu'il y a des choses difficiles. Peut-être que Dieu, quelquefois, veut nous dire des choses difficiles, des choses qui sont compliquées, des choses même qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre. Mais c'est une bénédiction de pouvoir dire, Seigneur, écoute, oui, je veux entendre. Je veux entendre parce qu'on peut chanter que Dieu nous aime. On peut chanter que Dieu est là, que Jésus est là. On peut chanter tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que nous croyons véritablement à son amour? Est-ce que nous croyons au pardon? Est-ce que nous croyons que lorsque le regard de Jésus-Christ s'abaisse sur nous, c'est pour nous sauver, pour nous bénir parce qu'il nous aime? Ou est-ce qu'on ne comprend pas cet amour? Et on passe notre temps à juger, à discuter. Il y a ce verset qui peut illustrer ce que nous sommes en train de partager. C'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Il y a cette réalité. Je bénis Dieu parce que lorsqu'on est venu vous annoncer l'Évangile, lorsqu'on est venu vous parler de l'Écriture, de ce que Dieu disait, vous avez reçu ça comme il se doit, comme venant directement du cœur de Dieu. Vous ne l'avez pas reçu comme venant des hommes, parce que si on reçoit cela comme venant d'un homme, ça ne va pas passer la porte. Ce soir, on rentrera et tout va s'évaporer. Si on est là à discuter, oui, mais la parole dit que Corneille était pieux, moi je ne crois pas qu'il était pieux. Si on est là à discuter que ceci, cela, ce n'est pas ça qui va agir en nous. Ce qui agit en nous, ce qui peut faire germer la foi, le salut, ce qui peut nous amener à rencontrer Jésus-Christ, c'est lorsque nous prenons la parole telle qu'elle est, venant directement de Dieu, de son cœur. Et c'est une parole qui agit, une parole peut-être dont on ne voit pas de suite les effets. Nous, on est souvent impatients, on a des promesses, on a des directions et on se dit « Mais Seigneur, j'attends ». Mais la parole de Dieu agit lorsqu'on manifeste la croix, la foi, lorsqu'on manifeste notre confiance. Lorsqu'on manifeste notre amour, la parole de Dieu agit. Lorsque, envers tout, on dit non, le Seigneur m'a dit ceci, alors je crois. Cette parole qui agit en vous qui croyez. Dans la parole de Dieu, il y a cet exemple tragique de ce qui peut être pour nous une réalité à un moment donné dans notre vie. C'est dans Jérémie 44, le verset 15, on pourrait le lire ensemble si vous le voulez. Il est écrit « Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, qui répondirent ainsi à Jérémie. » Ça veut dire tout le monde. Tout le monde était rassemblé, tout le monde était là pour dire à Jérémie. Et lorsqu'il s'adressait à Jérémie, un prophète, c'était comme s'il s'adressait à Dieu directement. Ils vont dire, ils n'étaient pas dans ce cas de figure où ils disaient à Dieu, « Écoute, nous on veut entendre tout ce que tu as à nous dire. » Ils vont dire, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous ne t'obéirons en rien, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. » C'est tragique. Et je pense que si on est là et on voit la vie de Corneille, on regarde, on se dit, mais Corneille, ça a été un homme qui a été béni. Ça a été un homme qui a su prendre les bonnes décisions, qui a su obéir. Ça a été un homme qui a été attentif. C'était un homme qui était perdu, sans Dieu, mais qui s'est laissé trouver par Dieu, qui s'est laissé mener par Dieu jusqu'à découvrir et prendre le salut pour lui, pour sa propre vie. Mais combien de fois dans notre vie, combien de fois nous sommes là, peut-être tentés, nous l'avons fait. Non, je ne veux pas t'obéir, Seigneur, c'est trop dur. Non, je ne veux pas faire ceci, c'est trop compliqué. Je ne veux pas abandonner le monde. Je ne veux pas abandonner ceci ou cela. Et c'est comme si on disait à Dieu, mais je veux agir comme ma bouche. Je veux agir comme moi je l'entends. Je veux agir selon mes pensées. Je veux agir selon ma propre conviction. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Et dans la vie de Corneille, encore une fois, j'insiste. Dans la vie de Corneille, on voit un homme qui, à ce moment-là, c'est comme si toute sa vie, il attendait ce moment d'être trouvé par Dieu. On ne sait pas combien de temps il a apporté ses prières. Combien de temps il a fait ses aumônes, combien de temps il avait cette vie pieuse, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que Dieu a su le trouver, c'est que Dieu l'a entendu, c'est que Dieu s'est souvenu de lui, là où il était. Il était entouré de soldats, Il ne devait pas y avoir des discussions très édifiantes. Il devait peut-être être là en se disant « Mais moi, je ne veux pas rigoler, je ne veux pas faire ce que vous faites. » Peut-être il était montré du doigt. Peut-être tout le monde se moquait de lui alors que c'était un chef responsable. Mais lui, il avait toujours cet état d'esprit. Et Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé, et je le répète, parce que, vous savez, on a à tort des fois. Et je le disais cet après-midi, ça m'est arrivé de rencontrer des jeunes qui disaient « Ah, moi, je ne peux pas prendre mon baptême, je ne sais pas quoi dire à mon témoignage. J'ai toujours été dans l'église, j'ai pas vécu la drogue, j'ai pas vécu ceci, j'ai pas vécu cela, alors je ne sais pas quoi dire. » Et la vie de Corneille, elle est là pour nous rappeler que si le pire des brigands a besoin d'être sauvé, si, je pourrais le dire comme ça, le pire des meurtriers a besoin d'être sauvé, a besoin de Jésus-Christ, le meilleur parmi nous, le meilleur d'un point de vue humain, le meilleur parmi nous a aussi besoin du salut, a aussi besoin de mettre sa vie en règle. Parce que lorsque nous allons nous retrouver devant Dieu, ce n'est pas nos aumônes qui vont rester. Lorsque nous allons être là devant le Seigneur, ce n'est pas notre vie pieuse qui va rester. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a lavés qui va faire la différence. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ce que Jésus-Christ a accompli pour nous qui va faire la différence devant Dieu. Une autre version, et je l'ai notée parce que ça a fait tellement écho dans mon cœur et je pense que ça va faire écho dans votre cœur. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Une autre version dira, mais nous exécuterons toute parole qui sera sortie de notre bouche. Toute parole qui sera sortie de notre bouche. Et il y a ce texte dans le livre du Deutéronome et Jésus va reprendre cela. Dieu, l'Éternel, voulut apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, vous voyez, on est là, on est rassemblés, on est quelques-uns, on partage la parole, mais on a toujours ce choix de dire, mais quand je vais sortir, ici, même ici, est-ce que c'est la bouche de Dieu qui me nourrit, c'est sa parole, bien sûr? Est-ce que c'est sa présence qui me nourrit ou c'est ma bouche? Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que c'est mon propre cœur qui me nourrit? Mon propre cœur, la Bible nous dit que si nous ne sommes pas dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes contre Dieu. Ne tombons pas dans ce piège. Ne nous illusionnons pas de croire qu'on peut se nourrir, on peut vivre sans Dieu. Et Corneille nous rappelle cette réalité, parce qu'il avait ce souci de dire, mais non, je sais que la vie, elle n'est pas en moi, elle est à Dieu, et c'est Dieu qui la communique. C'est pas en moi, c'est pas moi qui ai la solution, c'est Dieu. Je me nourris de la parole de l'Éternel, ou je me nourris de ce qui sort de ma bouche. C'est là notre choix. Et nous pouvons sortir demain, après-demain. Nous pouvons être là et même, j'allais dire, tous les jours, nous sommes confrontés à ce choix. Est-ce que je vais suivre ma propre voie ou je vais suivre la voie de l'Éternel? Pierre a apporté ce message parce qu'il est venu. Dieu l'a formé, l'a préparé pour ce message. Nous avons un message à adresser. Et j'aimerais vous dire que ce message n'a pas changé, n'a jamais changé. Peut-être la forme, les moyens de communication, je devrais le dire comme ça, ont changé. Les formats, les supports peuvent changer, mais le message n'a jamais, jamais changé. Pierre va dire, et je vous lis dans la version Parole de vie, nous l'avons lu tout à l'heure, « Maintenant, je me rends compte combien il est vrai que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Je vois au contraire que si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui, quelle que soit sa race ou sa nationalité. Et je l'ai dit tout à l'heure, entre les Juifs et les païens, c'était compliqué. Il y avait une incompréhension. Et Pierre a été préparé par Dieu. Et je dis ça parce que peut-être il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'être préparé, qui a besoin d'être labouré pour que Dieu puisse l'utiliser, se servir de toi, se servir de nous. Et on voit que Pierre est là, il se réjouit de l'expérience qu'il a fait avec le Seigneur. On voit qu'il dit, je me réjouis parce que je vois que le Seigneur aime. Je vois que ce n'est pas une question de race, de nationalité, de couleur, de rang social, de travail, de tenue vestimentaire. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde, pour tous ceux qui l'acceptent. Et c'est cela qui va donner la force, l'audace, l'assurance à Pierre lorsqu'il va annoncer ce message à Corneille, à ses amis, à sa famille. Il va dire, il a envoyé la parole aux Israélites, annonçant la paix. Et c'est cela que Jésus-Christ est venu. Il a pu dire à un autre moment, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et vous voyez, à chaque fois, on pourrait faire le parallèle avec la vie de Corneille. Et si Corneille avait besoin d'entendre ça, laissez-moi vous dire que quand bien même, au niveau de notre morale, tout va bien, quand bien même les autres dans le monde nous disent « Ah, mais t'es un bon gars, t'es vraiment une chouette personne, t'es ceci, t'es cela, ils nous font des compliments », c'est pas pour ça qu'on est à la paix. C'est pas pour ça qu'on a cette assurance qu'on est approuvé de Dieu. C'est pas pour ça que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il a envoyé la parole, Jésus-Christ, pour annoncer que la paix était disponible en lui. Dieu, et ça c'est le message qu'il a donné, Dieu a oint Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu pour guérir, pour bénir, pour libérer, pour qu'il fasse du bien, pour qu'il guérisse ceux qui sont sous l'empire du diable. Et je partageais ce verset. Et c'est un verset qui est là et qui m'a frappé. Parce que c'est là le ministère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas changé, c'est encore le même. Son amour n'a pas changé. Du premier jour jusqu'au dernier, son amour reste le même. Toi qui es converti depuis avant ta conversion jusqu'à aujourd'hui, son amour n'a pas changé. Sa délicatesse, sa manière de te parler, son désir que tu sois là en relation avec lui, dans une relation d'intimité, ça n'a pas changé. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans Matthieu 12, nous lisons, alors qu'il y a une discussion sur comment Jésus peut chasser les démons, Jésus va dire, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Nous, nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins de l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque les personnes autour de nous, la famille de Corneille, lorsque Corneille parlait, lorsqu'il écoutait Pierre du moins, lorsqu'il voyait, lorsque nous voyons comment Jésus a su nous prendre, intervenir dans notre vie, nous sommes ce témoignage vivant de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a été capable de changer ta vie, de changer ma vie, si l'œuvre de la croix a été effective pour nous accorder le pardon de nos péchés, c'est que le royaume de Dieu est venu vers nous. C'est que Jésus-Christ est une réalité. Et ce que nous sommes, ce que nous amenons, ça amène les autres, notre entourage qui ne connaissent pas Dieu, à se juger eux-mêmes dans ce choix en disant « Mais si tu as changé de telle manière, de cette sorte, c'est effectivement, si c'est l'Esprit de Dieu qui a su bouleverser ta vie, si c'est l'Esprit de Dieu qui a opéré ce changement, mais c'est parce que c'est le royaume de Dieu qui est venu. Et s'il est venu, si nous sommes là les témoins, c'est pour que nous puissions encore propager ce message qui n'a pas changé, c'est que Jésus fait du bien. Jésus allait de lieu en lieu pour bénir, pour guérir, pour chasser les démons, pour pardonner. Le pardon est disponible. L'amour de Christ est disponible. Et Pierre va continuer pour arriver peut-être au point essentiel de son message en disant « Mais ils l'ont tué en le pendant au bois. Celui qui est venu pour bénir, celui qui est venu pour guérir, ils l'ont tué en le pendant au bois. » La Bible nous dit « Maudit quiconque est pendu au bois. » Jésus est venu pour prendre notre malédiction, pour prendre notre péché. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et ça a été, c'est la preuve. C'est ce qui donne de l'assurance à notre vie. C'est ce qui constitue notre espérance. Parce que nous aussi, nous allons connaître, ou pas d'ailleurs. Peut-être que le Seigneur va revenir, il va nous prendre. Et s'il tarde à revenir, nous allons connaître le fait de pouvoir être relevé. Il a fait d'une manière spirituelle, il le refera et il le fera lorsqu'il va revenir pour nous chercher. Les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Corneille, cet homme qui était bien, qui était correct, devait recevoir le pardon de ses péchés. Ne pensons pas que nous sommes, parce que nous sommes habitués à venir à l'église, parce que ceci ou cela, nous n'avons pas besoin de recevoir le pardon de nos péchés. S'il y a un doute, si nous n'avons pas réglé certaines choses, il est encore temps ce soir de dire « Seigneur, viens dans ma vie, pardonne-moi, viens bouleverser, transformer mon existence, comme tu as pu le faire pour Corneille. J'ai besoin d'être éclairé, afin que ça ne soit pas mes pensées qui dominent, mais seulement ta parole. » Je terminerai avec juste ce verset, parce que la vie de Corneille, ce qui s'est passé a fait polémique, il y a eu une pastorale, Pierre s'est expliqué, et il est écrit, la conclusion de la pastorale, après avoir entendu cela, c'est acte 11, verset 18, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Corneille a dû quand même réagir à ce message, je vais le dire comme ça. Ça n'a pas été en claquant des doigts où Pierre est arrivé, le Saint-Esprit est venu, le salut est rentré. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça, ou du moins si ça s'est passé comme ça, mais il y a eu une étape avant. Et cette précision est là pour nous rappeler que les bénédictions, que le salut est là, toujours disponible, mais qu'il faut que nous puissions nous repentir, demander pardon au Seigneur pour nos péchés, plier, peut-être nous humilier, on n'a pas l'habitude, mais nous humilier pour que le sang de Jésus-Christ puisse nous pardonner de tous nos péchés. Amen, on prie le Seigneur un instant. Notre Dieu, merci. Merci pour ce que tu as accompli, merci. Parce que tu nous rappelles que tu vois tout homme, tu sais où nous en sommes, tu sais nous diriger, nous conduire. Lorsque nous frappons, tu ne nous laisses pas derrière la porte, mais tu te plais d'ouvrir la porte. Tu te plais de nous amener vers toi pour que nous puissions connaître cette vérité. Ta parole nous dit que seule la vérité nous affranchit. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour cela. Merci. Merci pour l'exemple de Corneille, pour tous ces hommes qui ont su répondre à cet appel. Nous voulons répondre à ton appel. Si nous n'avons pas fait la paix avec toi, s'il y a quelqu'un, Seigneur, ce soir, qui est là, qui n'a pas cette assurance, qu'il puisse, Seigneur, fléchir le genou, en te demandant pardon, en se repentant, nous qui avons fait la paix avec toi, nous voulons être sensibles comme Pierre l'a été, ne pas rester sur nos positions, sur nos pensées, sur nos certitudes, nos convictions, mais nous voulons te laisser toujours nous façonner, labourer nos cœurs pour que nous puissions être sensibles à ta voix et être utilisés par toi. Oui, Seigneur, il y a tellement de choses à vivre, à expérimenter avec toi. Nous ne voulons pas nous bloquer, mais nous voulons nous réjouir de ce que tu travailles nos cœurs pour porter ce message, ce beau message de l'Évangile qui n'a pas changé. Oui, tu offres le pardon de nos péchés. En Jésus-Christ, à la croix. Merci mon Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire. Sois honoré et béni au siècle des siècles. Amen.